Nous allons continuer cette entrée dans cette recherche sur la dimension de l'être, non plus au niveau de la détermination, mais au niveau de ce que représente cette interrogation de « en vue de quoi l'être », c'est-à-dire la perfection de l'être. On va préciser progressivement. Je vous disais hier et qu'il fallait comprendre en premier lieu, on ne peut pas rester au niveau philosophie première sur la découverte de l'ousia et de la qualité. Il faut aller plus loin. Alors c'est, je crois, dans cet aller plus loin qui doit nous orienter sur ce que représente cette recherche. Alors le premier signe, je ne vais pas insister trop là-dessus, parce que c'est intéressant, mais ce n'est qu'un signe. C'est le point de vue du langage. Essayez de comprendre comment la structure même du langage, par le point de vue du verbe, nous met en présence de quelque chose qui n'est plus seulement de l'ordre, de la détermination et de la signification. Alors c'est très difficile à exprimer ça. Parce que nous restons, il ne faut pas oublier, nous restons terriblement conditionné par les catégories, et de fait, nous parlons tout le temps de signification, ça c'est qui est au niveau des catégories, et au niveau de l'acuité. Or le verbe exprime quelque chose qui n'est plus de l'ordre de l'acuité, la mise en exercice. Pierre marche, Pierre est marchant. Pierre exerce quelque chose qui n'est plus une détermination particulière. Alors, est-ce que le verbe, je pose la question simplement au point de vue du langage, est-ce que le verbe signifie quelque chose ou est-ce que le verbe exprime un nouvel état? Je crois que c'est ce que nous devrions dire. Le verbe exprime un nouvel état d'un sujet dont la détermination n'est pas différente s'il a des états différents. Pierre dort. Pierre est éveillé. C'est toujours le même Pierre. Mais il a deux états tout à fait différents. Il dort et il est éveillé. Pierre existe. Je n'ajoute rien à la détermination et à toutes les déterminations de Pierre. Même à son individualité. Il existe. Il est. Vous voyez, nous sommes au-delà de l'ordre des significations exprimées par les catégories, et le verbe exprime, c'est pour ça que je dis exprimer. Si vous voyez un autre mot, vous me le direz, parce que je cherche. Qu'est-ce qui exprimerait le mieux, je dis bien ce qui exprimerait le mieux, non pas la signification du verbe, mais ce qu'est le verbe, ce que le verbe apporte. Dans l'ordre de la signification, ça on a beaucoup réfléchi. Mais dans l'ordre du verbe, on a beaucoup moins réfléchi. Et ça c'est très intéressant, même au point de vue, si vous n'avez qu'à regarder, au point de vue philologique, et au point de vue analyse du langage. Au fond, on a la tendance aujourd'hui de mettre entre parenthèses le verbe. Déjà, vous voyez, dire, c'est très curieux, déjà avec la scolastique, quand on dit que le verbe « est » est copule, c'est une manière très élégante de le mettre à la porte. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, vous assemblez. Vous mettez l'un à côté de l'autre. Et en réalité, ça ne signifie rien du tout. Or, c'est le verbe être qui exprime un état fondamental de celui qui est ou qui n'est pas. C'est quand même très important. Ah, alors nous avons tout de suite un autre signe, vous voyez. Dans le langage, il y a la négation. Affirmation et négation. Et l'affirmation et la négation vont là être quelque chose d'aussi très important, parce que ça n'ajoute rien au point de vue de la signification. Affirmer ou nier, ça n'ajoute rien, ça ne change rien au point de vue de la signification. Et cependant, ça affirme deux états contradictoires, qui ne peuvent pas exister simultanément, en même temps, du moins si j'accepte jusqu'à nouvel ordre la contradiction. ce que je pourrais dire, ah, je ne l'accepte plus, c'est une chose périmée, c'est une vieille chose grecque, une vraie chose latine, nous sommes dans un nouvel esprit aujourd'hui, et le nouvel esprit est au-delà de la contradiction. Ce qui est vrai, le nouvel esprit aujourd'hui est au-delà de la contradiction. Je ne sais pas à quoi ça va amener, mais ça ne fait rien, il est au-delà de la contradiction. Il veut être au-delà de la contradiction. Et au fond, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il faut se poser de temps en temps la question, qu'est-ce que ça veut dire d'être au-delà de la contradiction? Vouloir être au-delà de la contradiction, au-delà de l'affirmation et la négation, au-delà de ce que représente est ou n'est pas. C'est d'essayer de comprendre que toujours tout est en mouvement d'une manière telle que quand vous le dites à un moment, ce n'est plus vrai après. C'est le pantareil. C'est le pantareil. Je crois que le pantareil, tout coule. Je ne peux pas descendre deux fois dans le même fleuve, exprimez bien ça, il n'y a pas de contradiction, puisque je descends dans le fleuve à midi, je descends dans le fleuve à 4 heures, c'est plus la même eau, c'est bien évident. Mais c'est toujours de l'eau, c'est ça qui est ennuyeux. Mais c'est plus la même, mais c'est toujours de l'eau. Alors est-ce que ça porte sur l'individuation de l'eau, ou est-ce que ça porte sur la détermination de l'eau? Et c'est là où joue la contradiction. Si je ne vois plus la distinction entre une détermination et une autre, alors je comprends très bien. Mais si je vois la détermination, c'est autre chose. Mais ça, c'est un autre problème. Si nous avons le temps en critique, on le regardera. Parce que c'est le principe de non-contradiction. Et savoir dans quelle mesure il doit demeurer ou pas. Dans quelle mesure on doit le liquider. C'est intéressant, on doit se poser la question. Au point de vue moderne, on doit se poser la question. Ça fait partie de la modernité, ça. On est de voir si, de fait, on doit accepter ce principe de non-contradiction ou pas l'accepter. Pour voir si, de fait, il y a un dépassement qui s'est fait dans la mentalité, dans l'intelligence humaine. L'intelligence humaine a découvert des fonds, un abîme qu'elle n'avait pas découvert avant. Et cet abîme lui permet d'être au-delà de la contradiction. Vous voyez, comme je dépasse les catégories, dois-je dépasser le principe de contradiction? Est-ce que le principe de contradiction est au niveau des catégories ou est-ce qu'il n'est pas au niveau des catégories? Notez ça, hein, il faut le réfléchir, ces choses-là, parce que c'est important. Qu'est-ce qu'on peut dépasser, qu'est-ce qu'on ne peut pas dépasser, sans brouiller toutes les cartes? Sans supprimer la possibilité d'un langage, sans supprimer la possibilité d'une science. Il faut se poser la question. Bon, je reviens à la question affirmation et négation. Je vois que l'affirmation et la négation permettent de montrer deux états différents, contradictoires, par rapport à la même quidité, par rapport au même individu. Pierre existe, Pierre n'existe pas. Pierre a existé, Pierre n'existe plus. Il y a des états différents. Il y a une négation qui vient porter sur l'exister. Donc, non pas la signification, mais l'exercice particulier d'un être. Je crois que si j'analyse tout simplement le langage pour essayer de comprendre ce que représente le point de vue de l'affirmation simple, ceci est, au point de vue grammatical, hein, pas au point de vue métaphysique, ceci est, ceci n'est pas, je peux évidemment mettre entre parenthèses et dire il n'y a rien de plus. C'est l'objection de la philosophie analytique. Quand vous dites ceci est, vous n'affirmez rien d'autre que ceci. C'est une vieille affirmation, très vieille affirmation de Kant. C'est pas nouveau du tout, ça, c'est pas nouveau du tout, faut pas dire que c'est nouveau. C'est pas du tout la modernité, c'est Kant. Et Kant, c'est pas la modernité, c'est l'enterrement de la scolastique. Donc c'est pas la modernité, la modernité est née après. La modernité, c'est Nietzsche, ça oui, alors là, oui, vous êtes dedans. Mais dire ça, vous voyez, et ou n'est pas, parce que Kant disait ça, vous savez, les fameuses choses, des centalaires. C'est merveilleux, cette réflexion qu'il fait, surtout dans l'ordre économique. C'est que ceci ou ceci est, ça a la même signification. C'est intéressant de voir l'objection analytique. Poussée jusqu'au bout, ceci est et ceci, ceci ou ceci est, ça revient exactement à la même chose. En effet, et n'ajoute rien au point de vue de la signification. Alors, est-ce que l'intelligence est capable de dépasser le domaine de la signification? Ou est-ce que l'intelligence est enfermée dans le domaine de la signification? Vous voyez le problème, hein ? C'est ça qui, je crois, nous montre bien le problème nouveau. La substance, on l'avait définie comme un au-delà de toutes les déterminations et comme une source de toute signification, puisqu'elle est un au-delà de toutes les déterminations, et donc source de toutes les significations. La signification principale, première, c'est l'ousia. Et les catégories le montrent, puisque la première catégorie, c'est l'ousia. Et l'ousia se dédouble, exprès. Dans l'ordre de la signification, l'ousia se dédouble, pour montrer qu'elle est au-delà des significations habituelles et qu'il y a quelque chose de radical dans la signification de l'ousia. Alors, est-ce que mon intelligence reste enfermée dans le domaine de la signification ? Est-ce que je peux dépasser le domaine de la signification ou est-ce que je ne le dépasse pas ? Et si mon intelligence est faite pour la réalité, est-ce que la réalité implique quelque chose d'autre que le domaine de la signification ? Est-ce qu'il y a dans la réalité un fondement qui permet le dépassement de la signification ? Ou est-ce que la réalité elle-même se ramène adéquatement à la signification ? Vous voyez, au fond, c'est pris d'une autre manière, mais c'est le problème de savoir si ce qui est réel est rationnel, et si le rationnel est toujours réel. Adéquat. C'est la même chose, que le rationnel, c'est toujours la signification. C'est difficile, hein, quand vous êtes au-delà de la signification, de garder quelque chose de rationnel. C'est très très difficile. Tandis que la signification, c'est rationnel, là, parce que là, vous pouvez voir un jeu de relations, et saisir un jeu de relations. Alors, vous vous posez, c'est l'importance, voyez, du langage, là, parce que le langage me met quand même tout de suite en présence de l'œuvre la plus instinctive, la plus naturelle de l'homme. Naturellement, l'homme est un être qui parle. Naturellement, c'est un être qui parle. Et quand il parle, il produit quelque chose qui vient de lui. Alors, la parole est donc ce qui est le lieu premier pour essayer de comprendre ce que c'est que l'homme et pour essayer de comprendre ce que l'homme connaît. Donc, je vois que dans le langage, et je crois là, toute espèce de langage, c'est universel, implique la composition du nom et du sujet, du nom et du verbe. Donc, posons-nous la question, il faut se la poser, hein. Et si vous arrivez à essayer de préciser comment ceci est ou ceci c'est adéquat, vous voyez que par le fait même, vous faites tomber toute la question de l'au-delà de la signification qui donne un état particulier. Je dis un état parce que je n'ai pas d'autre mot. Un état particulier vaut ceci. L'état positif, l'état négatif, ceci est, ceci n'est pas. J'exprime quelque chose qui est au-delà de la signification quand je dis ceci est. Je ne change rien à la signification, mais j'exprime quelque chose de plus. Donc il y a là un signe très important à regarder. Je ne peux pas m'arrêter au signe si je suis dans une philosophie qui doit regarder le dialogue de l'intelligence et de la réalité. Je reviens donc à l'expérience. J'essaie de comprendre comment mon expérience de la réalité, des réalités sensibles, me met en effet en face d'une expérience très profonde, puisque c'est l'expérience la plus simple. Toutes les réalités que je saisis sont des réalités qui sont en mouvement, qui sont en devenir. Vous voyez, je reviens de Pantareil. Toutes les réalités qui sont autour de moi impliquent un certain devenir. Et parce qu'elles impliquent un certain devenir, toutes ces réalités sont changeantes. Vous voyez, je reprends le problème par le point de vue du mouvement. Nous verrons que nous pourrons le placer progressivement un peu au-delà. Mais c'est d'abord ce que nous devons comprendre. Que le changement, que le mouvement, ce fluxus, n'a en lui-même aucune stabilité, C'est pour ça que nous ne pouvons pas arriver à le saisir au niveau de la signification. Ce qu'il y a de propre à ce changement est évité au niveau de la et n'est pas saisi par la signification. Donc je reprends l'exemple de tout à l'heure, je ne peux pas descendre deux fois dans le même fleuve. En réalité, le même fleuve au point de vue de son existence et le même fleuve au point de vue de sa signification. Au point de vue de la signification du fleuve, je dis ce fleuve existe depuis longtemps, je peux descendre à midi, je peux descendre à 5 heures, c'est le même fleuve. Si je ne dis que ce n'est pas le même fleuve, qu'est-ce que je regarde? Je ne regarde plus le caractère spécifique du fleuve, je regarde son existence réelle. Cette eau qui coule. Cette eau qui coule, ce n'est plus la même 2 heures après. Et c'est le même fleuve. Vous voyez, là encore, du côté de la spécification, je ne saisis pas le fluxus. Et c'est très vrai, du côté de la signification, je ne saisis pas le fluxus. Je le mets entre parenthèses. Le fluxus individuel du fleuve, de cette réalité qui coule tout le temps et qui passe tout le temps. Alors, est-ce que je peux, au point de vue de l'intelligence, saisir ce fluxus? Vous voyez tout de suite, j'espère, que au niveau de la définition, si je suis au niveau des définitions, je suis toujours au niveau de la signification. Et donc le fluxus est mis entre parenthèses. La définition met le fluxus entre parenthèses. Or, le fluxus existe. C'est bien évident qu'il existe. Tandis que la définition, elle n'existe pas. Elle existe fondamentalement, mais elle n'existe que dans le fluxus. Et que par le fluxus. Donc, je vois bien qu'il y a là quelque chose d'extrêmement important, que si je ne regarde que le point de vue de la signification des choses, il y a quelque chose qui m'échappe, et la chose principale. Je ne retiens que ce que mon filet prend quand je définis, ce que mon filet prend, c'est la définition. Et alors, ce que mon filet prend, c'est la définition, donc je dis, c'est la seule chose intéressante, pas du tout. Si je regarde la réalité, je vois que c'est le fluxus seul qui existe, et que la définition, ben oui, c'est mon intelligence qui dit ça, mais la signification n'existe qu'à travers le fluxus. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, ce qui est le plus intéressant dans le réel m'échappe. Ce qui est le plus intéressant dans le réel, c'est-à-dire ce qui existe, m'échappe au niveau de la définition. C'est là où vraiment se pose le problème au point de vue philosophique. Je veux comprendre ce fluxus en tant qu'il existe. La philosophie de la nature a regardé le fluxus en fonction de la détermination, donc de la phusis. Je peux aller plus loin et je veux saisir le fluxus en lui-même, en tant qu'il existe, pas en tant qu'il est tel fluxus. Un fluxus naturel, un devenir naturel. Voilà ce qu'on regarde en philosophie de la nature. Tandis que là, je veux saisir quelque chose de plus. Je veux saisir ce fluxus en tant qu'il est une modalité particulière de l'être. En tant qu'il se présente à moi comme existant. Donc, ce fluxus n'est pas tel ou tel fluxus, tel ou tel devenir, tel ou tel mouvement. Je veux le regarder en tant que je l'expérimente. Et en tant que l'expérimentant, à travers les déterminations particulières, à travers et au-delà des significations, je veux le saisir en lui-même. Ceci, c'est pour que vous compreniez le problème qui se pose. Hein, parce que si on ne voit pas le problème qui se pose, on ne découvre jamais rien. Il faut donc découvrir qu'il y a quelque chose de nouveau qui n'est pas expliqué par la substance. Qui n'est pas expliqué par le point de vue des déterminations. Il y a quelque chose de particulier, et c'est particulièrement difficile à saisir. Parce que le fluxus, la signification, il y a une certaine stabilité. La déesse qui demeure dans la maison. Donc, si c'est la déesse qui demeure dans la maison, il y a quelque chose de stable. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit du fluxus, c'est juste inverse. Ça pourrait paraître, voyez, le caractère extérieur et éphémère de l'être. C'est éphémère, puisque la seule chose qui demeure, c'est justement cette qualité exprimée par la signification, par la définition. La définition, elle, montre les choses qui demeurent. Et donc les choses intéressantes, les choses essentielles. Voilà. La définition exprime ce qui est essentiel. La définition est essentielle. Elle exprime donc le tiesti, la chose essentielle de la réalité. C'est toujours la signification et c'est toujours la définition. Tandis qu'au contraire, le fluxus, ben c'est l'apparence. C'est l'apparence, c'est ce qui change. C'est ce que je vois. Donc c'est l'aspect phénoménal. Tandis qu'au contraire, l'essence est... Alors, c'est l'exister extérieur, oui, très vrai, c'est l'exister extérieur, c'est ce qu'il y a de plus individuel, c'est très vrai, et c'est l'individuel dans le sens que le point de vue de la signification demande d'être individualisé pour exister, la substance première, ah, la substance première, c'est donc ce qui existe, est-ce que c'est le fluxus? Non, la substance première est sujet du fluxus. Elle est sujet de l'existence de ce fluxus. Donc, faisons attention. Cet exister du fluxus, il est bien ce qui apparaît, c'est sûr. C'est la première chose que je saisis. Mais en même temps, c'est beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus profond puisque c'est cette réalité qui existe de fait, de cette manière, dans un devenir. Alors, c'est là où, je crois, se pose le problème métaphysique. Par le problème du mouvement. Quand je pose le problème du mouvement et que je pousse le problème du mouvement jusqu'au bout, je suis obligé de reconnaître que l'interrogation du tiesti ne suffit plus. Il y a une réalité que je ne peux pas saisir par le tiesti. Il y a quelque chose que je ne peux pas saisir par le tiesti, parce que là, je redonne tout le temps la signification. Je prends substance première, je prends... la substance comme principe ou la substance première, il y a quelque chose qui échappe. C'est le devenir même de cette substance première. C'est le devenir même de cette substance première. C'est pas cette substance première. Ça, c'est l'individualité. Mais c'est le devenir même de cette substance première. Cette substance première m'est donnée dans un changement constant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans l'ordre de l'interrogation du tiesti, je ne peux pas. Je suis donc obligé, si je veux essayer de saisir ce que représente ce fluxus qui m'échappe, que je n'arrive pas à saisir, qui est très éprouvant pour l'intelligence. C'est très éprouvant, vous voyez. La signification, c'est pas éprouvant. Je saisis quelque chose. C'est pour ça que la substance n'est pas éprouvante. Tandis qu'ici, c'est quelque chose d'éprouvant. J'arrive jamais à le saisir. Je vois qu'il y a quelque chose, ça j'espère. J'espère que vous voyez tous qu'il y a quelque chose. Qu'il y a quelque chose qui échappe à la signification, au domaine de la définition. Et je prends cet exemple très simple d'une panne pareille, puisqu'il est classique. Et parce qu'il est classique, il est porteur d'une signification spéciale. Alors, je vois très bien qu'il y a quelque chose en lui que je n'arrive pas à ramener. Je vais maintenant essayer de dire, ah mais oui, on a analysé le mouvement. On l'a analysé en ce sens qu'on a dit que le mouvement se ramenait à la passion et à l'action. C'est une glose marginale. Donc aux catégories, le mouvement, le fluxus, passion et action. Alors c'est suffisant, j'ai étudié le mouvement. Je l'ai dans la passion, je l'ai dans l'action. Vous voyez, donc je pourrais dire ça, c'est une petite objection, n'est-ce pas? Au fond, les catégories s'occupent du mouvement. Vous n'allez pas dire que les catégories ne s'occupent pas du mouvement. Les catégories s'occupent du mouvement. Parce que toute la réalité que je touche elle est toujours touchée dans le devenir. Donc les catégories touchent le mouvement. Et ils expriment le mouvement par le point de vue de la passion et l'action. Puis-je dire que c'est suffisant? De nouveau, non. Parce que passion et action réduisent le fluxus dans deux déterminations particulières. Mais le propre du fluxus, c'est justement d'être la synthèse des deux. Et ce n'est pas seulement l'addition des deux. Non, parce qu'en plus, il y a le sujet qui pâtit. C'est le sujet qui pâtit et le sujet qui est actif qui forment le fluxus. Le sujet est dans le fluxus. Il est dans le fluxus. Et donc, en disant action et passion, je me sépare du sujet, puisque j'attribue passion et action au sujet. Or, c'est justement l'unité des deux qui fait le fluxus. Donc là, je laisse tomber quelque chose. Les gens trop rationnels font ça. Ils croient épuiser un sujet dans la mesure où, justement, ils l'ont analysé à leur manière, et ils ne voient pas qu'en faisant cette analyse, ils ne saisissent qu'un aspect et que le plus intéressant leur échappe. Ça, c'est un exemple très très beau pour voir ça. Pour voir comment le fluxus ne peut pas se ramener à la passion et à l'action. Il y a quelque chose de sui generis dans le fluxus, quelque chose de sui generis dans le devenir. Le devenir existe, que je ne peux pas ramener à l'action et à la passion. Alors, je prends la définition classique, évidemment, je peux très bien dire ça. Le mouvement, c'est l'acte de ce qui est en puissance. Ah. La philosophie de la nature a-t-elle dit ça en faisant appel à la métaphysique ou est-ce qu'elle a dit ça par elle-même, hein? Grave question. Ça, c'est de l'aristotélisme. Hein? Tandis que si je prends l'expérience du fluxus, je regarde tout simplement que le point de vue de la passion et de l'action non, n'épuise pas. Je pourrais mettre en seconde objection ça, dire, bon, mais oui, mais au fond, c'est l'acte ce qui est en puissance. Attention, on y reviendra là-dessus. Mais je ne vais pas partir sur ce que dit Aristote, je veux rester dans l'expérience. Je veux rester dans l'expérience, l'expérience du fluxus. Alors, est-ce qu'il y a, donc il y a une pierre battante, hein, je dis, le TST, je crois que c'est la première chose qu'on doit faire. Le TST, l'interrogation du TST, n'épuise pas le réel que j'expérimente. Il y a quelque chose qui échappe à l'interrogation du TST. Il faut donc une autre interrogation. C'est important. Si je me situe dans tel axe, il y aura des choses que je ne verrai pas. Changez de position, vous verrez. Les gens entêtés, c'est comme ça, vous savez. Sont entêtés, mais je ne vois rien. Mais restez pas toujours dans la même situation. Vous pouvez prendre une autre situation. Alors il faut les transporter et puis les mettre dans une autre situation. Alors à ce moment-là, ils commencent à voir. Mais on est comme ça, on est très entêté dans notre esprit. Hein. On est très borné. Et alors parce qu'on est très borné, on est comme ça. On a saisi une ligne, alors on veut pousser jusqu'au bout. Ça a été tellement merveilleux la saisie de Lousia. Le TST, c'est tellement merveilleux. Alors poussons, poussons jusqu'au bout et on, au-delà de la substance, brisons la substance et on découvrira le fluxus. Pas du tout. Vous voyez, la fêlure métaphysique. La fêlure métaphysique de l'essence et de l'existence. Hein? Cette fameuse fêlure hein? De l'exister. Vous voyez la fêlure musicale. Je dis ça, c'est parce que ça existe, cette position-là. C'est pas du tout imaginaire, elle existe. Elle existe et elle est, je dirais tout simplement, le souci de pousser jusqu'au bout Lousia, pousser jusqu'au bout Lousia. Alors vous découvrez la fêlure de Lousia et en découvrant la cellule de Lousia, vous découvrez l'exister. L'exister du fluxus. Non. L'acte de ce qui est en puissance. La fêlure de Lousia, c'est ce qui est en puissance. Or, justement, le mouvement est le mouvement du sujet. Alors vous allez découvrir la fêlure de Lousia, et en découvrant la fêlure de Lousia, vous découvrez le point de vue de l'exister. Exister dans le devenir. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça, pourquoi? Parce que la substance est saisie comme un principe, comme quelque chose d'indivisible. Elle n'a pas de fêlure. Ce serait contradictoire de dire que la substance est une fêlure. Ce serait justement de ne plus saisir la substance. La substance est principe, je ne peux pas aller au-delà. Je ne peux pas aller au-delà dans l'ordre du TST. Je touche quelque chose d'ultime dans l'ordre du TST. Mais mon interrogation du TST n'est pas la seule. Alors c'est là où je dois changer de vitesse. Il faut débrayer avant. Et c'est pas commode. De changer de vitesse, de passer du TST à autre chose. Bon, nous avons vu que nous ne pouvions pas prendre l'interrogation en quoi. Nous ne pouvions pas prendre l'interrogation de l'origine. Mais il reste une autre interrogation. Alors, en vue de quoi? Eh bien, il faut découvrir maintenant ce que représente cette nouvelle interrogation. Oui, ça, c'est très important. Ce que Aristote n'a pas fait. C'est là où on doit nécessairement dépasser, parce que de fait, on est en face de problèmes beaucoup plus difficiles qu'Aristote. C'est beaucoup plus complexe, la philosophie moderne, que la philosophie de Platon. C'est beaucoup plus complexe. Alors, il faut nécessairement revenir beaucoup plus à la philosophie des interrogations. Si on ne revient pas à l'interrogation, je crains qu'on ne peut pas saisir. Et on n'arrive pas à saisir. Il faut donc, on a poussé jusqu'au bout le tiesti. On a vu que le fluxus posait une question et n'était pas expliqué par le tiesti. Si le fluxus n'est pas expliqué par le tiesti, il faut donc revenir à en vue de quoi ? En vue de quoi ce qui est. En vue de quoi ce qui est et qui m'est donné dans le fluxus. Je ne cherche pas la signification du fluxus, mais je cherche le fluxus qui m'est donné. Le fluxus m'a posé une question. Vous voyez bien. Le fluxus me pose une question, exactement comme le langage me pose une question. Il est signe. Le fluxus est là pour arrêter le point de vue de l'intelligibilité du tiesti. Il y a quelque chose qui arrête, c'est le mur. C'est intéressant de voir ça. C'est vrai, ça arrête. Je vois que le tiesti ne me peut pas expliquer. Alors, je reprends une nouvelle interrogation, regardant le fluxus, non pas en lui-même, et non pas tel fluxus, mais pris en tant qu'il existe, en tant qu'il est, en tant qu'il y a en lui le fait qu'il existe. Mais qu'il existe d'une façon éphémère. C'est ça qui est très curieux. Parce que le propre de l'existence du fluxus, c'est une existence éphémère. Le fluxus est maintenant, mais deux minutes après, il n'est plus. Et c'est la fameuse question de notre monde. Hein. Notre monde, il existe dans le devenir. Tout notre monde existe dans le devenir. Donc, il est maintenant, mais demain. Et le demain, c'est immédiatement après. Hein. Il peut très bien disparaître. Pas de contradiction. C'est ça l'interrogation du fluxus. Il est cette existence éphémère, cette existence qui pourtant est radicale, puisque elle n'est pas seulement quelque chose qui apparaît, mais c'est quelque chose de radical, mais qui dans le fluxus m'apparaît selon ce mode extraordinairement imparfait, qui fait que je n'arrive jamais à le saisir, parce que dès que je veux le saisir, c'est déjà du passé. Alors, j'essaie de saisir, c'est une chose curieuse. Et je vois très bien que du côté du TSI, je n'y arrive pas. Alors, posons-nous la question, cette nouvelle manière d'interroger, en vue de quoi? Alors, essayons de poser cette interrogation, non plus au niveau éthique, vous l'avez déjà vu, au niveau éthique ou au niveau du fatchéré. Cette interrogation, en vue de quoi, se pose très forte au niveau de l'adjéré, et au niveau du fatchéré, je dis ça, éthique, le point de vue moral, le point de vue de l'action humaine. Et ici, au niveau de la réalisation artistique. Il faut dépasser cette interrogation qui est née d'abord à ce niveau-là. C'est toujours intéressant, hein, je vous l'ai dit. Il faut voir le premier pli, toujours. Si je ne vois pas le premier pli du conditionnement, il y a des choses que je ne comprends pas. Eh bien, dans ce premier pli du conditionnement, en vue de quoi exprimer l'aspect de la réalisation, donc de l'effet, de l'ergon, comme dirait Heidegger. Hein. C'est l'ergon, c'est l'œuvre. C'est l'œuvre qui m'intéresse. Et puis, le point de vue du bien. Le bien qui transcende. Le bien qui me dépasse. C'est ça les deux aspects. Hein. En vue de quoi? Je suis là au niveau de l'action humaine. Je peux aller plus loin, me poser l'interrogation en vue de quoi au point de vue de l'être. C'est d'essayer de saisir l'état ultime de ce qui est. Je dis état, on verra ensuite si on peut aller plus loin. L'état ultime de ce qui est dans le mouvement, dans le fluxus. Saisir, vous voyez comment à travers le fluxus, il y a quelque chose qui n'est pas le fluxus, puisqu'il est. Il est à la racine de ce fluxus, de ce devenir, mais en même temps, il le dépasse. Mais il reste dans la ligne de ce devenir. Il reste dans le prolongement de ce devenir. Il est. Et cette existence m'est donnée dans le fluxus. Vous voyez bien que là, je saisis ce point de vue, ce qui est au-delà et ce qui est, d'une certaine manière, le résultat. Est-ce que l'exister n'est pas le résultat du devenir constamment ? Est-ce que l'exister n'est pas au-delà de ce que représentent les modalités particulières du devenir? J'ai donc quelque chose d'analogue, vous voyez, à cette espèce de pince. Mon intelligence devient là, elle devient méchante, hein, saisir. Elle est agressive, hein, faut bien le voir. C'est quand elle voit qu'elle n'a pas saisi son gibier par le tiesti, et qu'il y a quelque chose qui échappe, le fluxus, c'est très irritant le fluxus pour l'intelligence humaine. C'est très très irritant. On n'arrive pas à le saisir. Et ça, c'est l'irascible de l'intelligence. Alors, je crois que l'irascible de l'intelligence ne peut s'apaiser que par la causalité finale. C'est très très curieux ça. Là, il y aurait beaucoup de choses à regarder au point de vue de notre psychologie. Et notre psychologie profonde. Alors, la psychologie profonde. Est-ce qu'au fond, quand l'intelligence humaine ne découvre pas la finalité, est-ce que l'intelligence ne reste pas comme quelqu'un qui n'a pas saisi son vrai bien, son bien dernier, alors qui est en chasse, qui cherche et qui n'arrive pas à saisir. Alors elle est dans un état d'irascibilité et de colère. Est-ce que seul le point de vue de l'interrogation en vue de quoi n'est pas ce qui peut apaiser l'intelligence? Ça, ce serait très intéressant, parce qu'alors on verrait là comment l'interrogation en vue de quoi est la seule interrogation qui donne le repos à l'intelligence. L'interrogation en vue de quoi me donne le bonheur, mais ça c'est le sujet. Ici, je cherche pas le bonheur, je cherche le repos de l'intelligence. Je cherche comment l'intelligence peut saisir ce qu'il y a d'ultime dans son bien d'intelligence. Elle veut saisir la réalité jusqu'au bout de cette réalité. Donc saisir ce qui échappe à l'interrogation du tiesti. Tout ce qui échappe à l'interrogation du tiesti, c'est tout ce qui est en dehors de la signification. Alors l'intelligence, à travers le devenir, puisque c'est à travers ce qui échappe, je reprends ce qui échappe pour saisir à travers ce fluxus, me poser l'interrogation, en vue de quoi ce fluxus? En vue de quoi cet être, impossible à saisir, au-delà de toute signification? La finalité est au-delà de la signification. La finalité est au-delà de la signification. Ce n'est pas la signification, la finalité. Alors, si c'est au-delà de la signification, c'est donc quelque chose qui peut-être me permet de saisir ce qui, dans le fluxus, est le meilleur. Or, la finalité est au-delà de la signification. Alors, elle est quoi? Elle n'est pas une trans-signification. Non, parce que justement, l'ousia n'est pas fêlée. Si l'ousia était fêlée, elle serait une transsignification. C'est pour ça que la transsignification n'a pas de sens. Au sens propre. Vous voyez, c'est l'erzas de la finalité. C'est parce que vous ne cherchez plus la finalité, alors vous dites transsignification. Alors vous fêlez la substance. Mais fêler la substance, c'est la supprimer. Donc c'est supprimer toutes les significations. Vous ne pouvez pas avoir une transsignification. Vous avez autre chose qui permet à l'intelligence, en interrogeant, de saisir ce qui transcende, mais ce qui est saisi en même temps dans l'immanence. La transcendance a une a quelque chose, pas une signification, mais quelque chose que je peux exprimer grâce à l'amour que j'ai du bien. Le bien s'exprime par l'amour. Vous voyez, la transcendance s'exprime par l'effet profond du bien en moi, ce qui est l'amour. Vous voyez, j'essaie de saisir l'interrogation, c'est ça que je cherche. Il faut essayer de saisir ce que représente cette interrogation si banale que nous répétons, et alors parce que nous la répétons, elle est usée, et là nous n'y comprenons rien du tout. Il faut essayer de saisir ce que représente cet effort de l'intelligence, le chien de chasse, hein, pour employer l'expression de Platon. L'intelligence, quand elle interroge, elle est comme un chien de chasse. Elle cherche son gibier. Alors, elle se met donc dans une position spéciale, particulière, qui n'est plus le tiesti. Donc, je reprends les deux premiers moments de « en vue de quoi ?» quand il s'agit du bien, quand il s'agit du résultat. C'est curieux, hein, c'est la pince. Hein. C'est vraiment les deux extrêmes. Les deux extrêmes, le bien que je n'ai pas fait et l'œuvre que je fais. La réalité ultime et la réalité la plus proche. Ce que j'ai fait, bon, c'est quelque chose qui est tout proche de moi. Et le bien que je n'ai pas fait et qui s'impose à moi, c'est quelque chose d'ultime. C'est très curieux que ces deux extrêmes sont saisis à travers la même interrogation. Alors est-ce qu'à ce moment-là, je ne saisis pas ce qu'il y a de particulier à l'intelligence dans un dépassement du tiesti où l'intelligence veut saisir ce qu'il y a de plus proche, ce qu'il y a de plus loin. Ce qu'il y a de plus proche, ce qui lui est le plus connaturel, son ergone, ce qu'elle a fait, ce qui est son œuvre. Donc, c'est toujours ce qu'il y a de plus proche, ça, c'est évident, au point de vue connaturalité, au point de vue du conditionnement. C'est toujours ce que nous faisons, ce qui est le plus proche de nous. Point de vue comme naturalité. C'est ce que nous admirons le plus facilement. Parce que c'est ce que nous avons fait. Et puis en même temps, ce qui est le plus loin. Et qui est cependant porté en moi parce que je l'aime. C'est ça l'interrogation en vue de quoi ou en vue de qui. C'est cette chose curieuse. Alors appliquez ça à l'être. Saisir dans l'être ce qu'il y a de plus proche de vous et ce qu'il y a de plus loin de vous. C'est peut-être la seule manière de saisir le fluxus. Le fluxus, mais je suis dedans. Moi aussi, je change tout le temps. Vous m'avez vu hier, je ne suis pas le même. Donc c'est le fluxus, et vous aussi, c'est la même chose. Et pourtant, nous ne sommes pas posé la question, tiens, est-ce que nous avons changé depuis hier? On radote, on est revenu à la même place qu'hier alors que tout est changé, quoi. C'est plus du tout la même réalité. Et on revient sans se poser de questions. Mais nous changeons, nous sommes dans un fluxus constant. La connaturalité la plus grande avec moi, c'est pas le tiesti. Le tiesti, c'est par où nous nous distinguons. La vache, elle est loin de moi, le tiesti de la vache. Tandis que le fluxus de la vache, elle est tout proche de moi. Nous sommes tous dans le même fluxus. Le grand œcuménisme du fluxus. C'est le fluxus. Tout change tout le temps. Et nous sommes dedans. C'est ce qu'il y a de plus proche de moi. C'est curieux au point de vue du conditionnement. C'est ce qu'il y a de plus proche de moi. Je suis dedans. Et en même temps, c'est ce qu'il y a de plus profond en moi. Ce qu'il y a de plus ultime, par où d'une certaine manière, j'existe dans ce fluxus et au-delà de ce fluxus. Et c'est pour ça que je peux revenir au même endroit. Ça a l'air de rien, mais c'est à cause de ça. Il y a quelque chose qui dépasse le fluxus, qui est pourtant dedans, qui n'est pas la signification, c'est beaucoup plus que ça. Je reviendrai au même endroit. Quelque chose, vous voyez, saisissez ça, essayez de saisir comment mon intelligence, quand elle est dans un état d'interrogation en vue de quoi, l'intelligence veut saisir ce qui est le plus en connaturalité avec nous et ce qu'il y a de plus lointain dans l'expérience, de plus profond dans l'expérience. Le schème, l'œuvre, le bien. Le schème, hein, c'est le schème premier. Mon intelligence intérieure, en vue de quoi elle saisit l'œuvre, elle saisit le bien. En vue de quoi je travaille, l'œuvre. En vue de quoi je mon bonheur, le bien. Je l'aime. Eh bien, ça, nous saisissons là une structure très profonde de mon intelligence en quête de saisir ce qu'il y a de plus intime et de plus profond dans le fluxus.